France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Et voilà donc une autre proposition inattendue, insensée celle-ci encore au regard de l'histoire de la condition présente des Palestiniens, de la réalité de la bande de Gaza par ailleurs. Donald Trump a annoncé vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza, une présence américaine sur le long terme dans le territoire palestinien. Quelques jours plus tôt, la semaine dernière même, le 27 janvier, un accord a été finalement trouvé pour permettre aux Gazaouis de retourner au nord de Gaza et on a vu alors d'immenses colonnes de réfugiés faire le chemin inverse qu'ils ont été contraints de suivre au cours des 15 derniers mois. Sur place, comme dans la ville de Gaza, il ne restait rien, quasiment rien, et toujours des maisons et des immeubles. Pourtant, les habitants sont prêts à planter leurs tentes sur les décombres de leurs maisons. Pour comprendre ce retour, ces déplacements successifs qui contraint les Palestiniens à vivre dans des conditions extrêmement difficiles depuis 1948, je reçois ce soir Jeanne Sfer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes l'autrice notamment de cet ouvrage intitulé « L'exil palestinien au Liban ». C'était chez Kartala, c'est apparu en 2008. Ainsi qu'écrit « Politiques arabes », une anthologie du Mashrek au Maghreb au XXe siècle. C'était coordonné avec Leïla Sera et c'était chez CNRS Éditions en 2022. À mes côtés, Julien Bisson, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnerez dans cette interview. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Questions du soir ».
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot. Nous en avons la capacité et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes sur place. Nous allons aplanir la zone et nous débarrasser des bâtiments détruits afin de créer les conditions d'un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements à la population de la région. Et je ne veux pas être trop mignon et faire le malin, mais la Riviera du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose de si magnifique.
Le président américain hier, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Jeanne Sfer, comment comprendre, si cela est possible, cette déclaration de Donald Trump ?
Alors oui, il faut. La première chose, c'est qu'il faut le prendre au sérieux. Et ça continue un peu ce qu'il avait commencé lors de son premier mandat. L'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem ou le retrait du soutien américain à l'UNRWA et qui est aujourd'hui, il a signé deux décrets, défiscaliser, en fait, enlever le soutien financier à cette agence qui était destinée, qui est destinée au secours et au travail des réfugiés, qui est la première agence d'employeur, enfin c'est le premier employeur pour les réfugiés palestiniens et pour les palestiniens également. Et donc ça s'inscrit également dans cette alliance avec Netanyahou et les accords d'Abraham par exemple, la mise en place d'un programme d'alliance avec les pays du Golfe, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis. Et la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas être sidéré par c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut provoquer avec sa déclaration une sidération et qu'on tombe dans son piège. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul et surtout faire confiance au peuple palestinien. Parce que les images qu'on voit, le peuple palestinien part vers le nord. La première chose après le cessez-le-feu qu'on s'attendait à voir, c'est que les Palestiniens partent vers le sud, vers Rafah, et qu'ils partent vers l'Égypte. Et alors que non, ils sont en train de partir vers le nord, vers les villes entièrement détruites. Ils sont dans un paysage complètement apocalyptique. Ils sont dans une réalité dystopique à laquelle ils s'accommodent et ils s'adaptent. Et ils ont cette grande force d'adaptation et d'accommodation parce que le provisoire est leur permanent.
Julien Bisson.
Oui, Jeanne Sfer, pour rester juste encore un temps sur le plan de Donald Trump, vous nous dites que ce n'est pas un coup de bluff total du président américain, c'est donc une stratégie délibérée. Quel est l'objectif, avoué ou non avoué, du président Trump ?
Alors, l'objectif, il est très dangereux et on va parler de déportation, c'est-à-dire qu'on craint voir débarquer des bus, parce qu'il n'y a pas de train, emmener ces 2 millions de Gazaouis pour les faire un deal, enfin ça c'est son projet, faire un deal avec l'Égypte, faire un deal avec la Jordanie, avec d'autres pays qui sont OK pour les accueillir, en contrepartie on signe des chèques.
Des pays qui condamnent tous aujourd'hui les déclarations de Donald Trump.
Hein. je pense que là aussi, il y a une force, c'est-à-dire que même les pays qui ont signé les accords d'Abraham, notamment l'Arabie Saoudite, condamnent fortement cette déclaration. Et donc, dans le projet de Trump, c'est de déporter tous les Palestiniens, et comme il a dit, c'est la Riviera, de transformer la bande de Gaza en une sorte de Riviera touristique, et les agences immobilières israéliennes et américaines sont déjà en train de faire des plans.
On le disait en introduction, hein, lundi 27 janvier, Israël a ouvert le nord de Gaza au retour des Palestiniens. L'armée israélienne avait organisé l'évacuation de cette zone la plus peuplée du territoire avec 1,3 million d'habitants au début de la guerre. On entend ce que représente ce retour pour de nombreux Palestiniens.
Tous les mots de la langue arabe ne suffiraient pas à exprimer ce que je ressens. Nous revenons à Gaza. Jamais nous ne renoncerons à notre terre, la terre du peuple palestinien.
Il n'y a plus de maison pour nous, mais ce n'est pas grave. Nous chercherons quelque part où vivre. Je suis venu seul pour trouver un endroit pour ma famille et ensuite ils me rejoindront.
Je suis très heureuse. Je remercie Dieu de les avoir gardés en sécurité. Les maisons et les destructions, ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'ils soient rester en vie, grâce à Dieu. Tant pis, nous vivrons dans une tente. L'important, c'est qu'ils soient en bonne santé, grâce à Dieu.
Comment comprendre, Jihan Sfer, et plus encore, nous faire comprendre ce que représente ce retour pour les Palestiniens et les Gazaouis?
Alors, il faut voir ça dans le prisme de deux termes que j'ai employés ici. On parle de Nakba continue, ou Nakba al-Mustamarra, et de Soumoud, de la résistance du peuple palestinien.
La Nakba, je rappelle, c'est la catastrophe,
De 1948 qui a causé le déplacement de pratiquement à peu près 750 000 Palestiniens qui ont été trouvés refuge à Gaza, en Cisjordanie, enfin qui était la Transjordanie à l'époque, au Liban, en Syrie, avec des statuts différents. Et donc, pendant cette période-là, le premier qui va appeler cette Nakba, c'est un intellectuel nationaliste syrien qui vivait également très pro-palestinien, qui vivait en Palestine, et qui va nommer la Nakba et qui dit que donc c'est l'éclatement d'une société, la dispersion d'un peuple, l'exil forcé, mais c'est aussi une secousse qui doit réveiller les Arabes pour se reformer et reformer un mouvement nationaliste arabe assez fort. Bon, on est loin de cette définition qui date de 1948, mais cette Nakba aujourd'hui, elle est là quand on regarde les images de ces Palestiniens par centaines de milliers qui se déplacent et qui racontent l'histoire de déplacements forcés, de transferts de cette population, mais qui restent, et là je reviens au deuxième terme qui est le Soumoud, on reste cette terre, on a entendu à plusieurs reprises, ça c'est ma terre. Donc il y a un attachement à cette terre parce que cette terre leur appartient. Et dans le droit international, Gaza est un État, appartient à l'autorité palestinienne.
Julien Bisson.
Oui, ce retour justement de ces réfugiés qui s'étaient réfugiés dans le sud de la bande de Gaza, ce retour au nord 15 mois plus tard, est-ce que c'est un retour inédit finalement dans l'histoire palestinienne récente? Il y a une symbolique particulière.
Inédit, je ne sais. Oui, dans le sens où en 48, par exemple, si on revient à l'histoire du premier exil, lorsqu'en 1948-49 on a la première guerre israélo-arabe, ce qu'on regarde, c'est que les Palestiniens se sont tassés sur les frontières, ils sont partis et ils ont attendu à la frontière du sud Liban, ils ont attendu aux frontières entre la Syrie et la Palestine mandataire pour revenir. Puis ensuite, ces frontières ont été entièrement fermées et ils se sont dispersés sur tout le territoire, enfin sur au Liban et dans les autres pays d'accueil. Aujourd'hui, on sait que si on descend vers les frontières et si on franchit cette frontière, on ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est quelque chose que l'histoire a appris aux Palestiniens à partir des différents transferts, parce que c'est pas 48 et 2023. Entre 48 et 2023, il y a également 1967. Il y a également d'autres transferts beaucoup plus localisés, notamment avec la construction des colonies et avec le déplacement des villageois qui habitaient dans un endroit pour donner leurs terres, les déposséder et donner leurs terres aux colonies qui sont considérées comme illégales dans le droit international.
Je voudrais que l'on creuse avec vous, Jihan Sfer, deux notions. La première, c'est celle de Nakba comme processus. On connaît la notion de Nakba comme événement, mais comme processus, je voudrais qu'on tente de mieux la comprendre. Et puis, un peu plus tard, celle de Soumoud. Mais peut-être d'abord, vous dire la citation de cet écrivain libanais, Elias Khoury, que vous avez mentionné, qui était proche de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Il écrivait « Ce que n'avait pas compris à l'époque la personne qui a forgé ce concept de Nakba, de catastrophe, c'est que la Nakba n'est pas un événement, mais un processus. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie en profondeur ?
C'est un processus parce que la Nakba va devenir un marqueur temporel qui est commémoré et qui va marquer la naissance d'une identité nationale dans l'exil, mais qui ensuite va devenir aussi intégrée à l'intérieur des territoires, des Palestiniens qui sont restés dans les territoires.
La catastrophe est donc tout sauf terminée ?
Non, la catastrophe continue, mustamra, elle est, on continue, elle est continue avec les événements, ces derniers événements, et la menace qui pèse sur Gaza d'être vidée de sa propre population.
Julien Bisson.
Cet autre concept, le Soumoud, comment est-ce qu'il est devenu constitutif de l'identité palestinienne ?
Il est devenu constitutif d'abord parce qu'il a accompagné un autre terme en arabe qui est la thawra, la révolution. Donc la thawra, on est dans l'action, on prend les armes et c'est les années 60, c'est les années 70 où la révolution palestinienne est devenue une révolution quasiment internationale où on avait Godard, Genet qui venaient, il y avait un réseau transnational, international, révolutionnaire avec l'IRA, avec d'autres groupe révolutionnaire nationaliste, et le Soumoud est venu un peu après, et surtout je dirais après 82, et l'invasion israélienne et le départ des factions armées, notamment de l'OLP et de Yasser Arafat de Beyrouth, et ceux qui sont restés, ils ont développé donc ce sentiment de résistance, mais de résistance statique. On reste là où on est, cette résistance statique, elle est également, on la trouve beaucoup dans les villages, on la trouve beaucoup dans les communautés villageoises qui sont menacées d'expulsion, comme les villages de Massafariata. Je ne sais pas si vous avez vu le film No Other Land qui parle du quotidien de ces villageois qui sont tous les jours harcelés pour qu'ils quittent leur terre.
Est-ce que le Hamas, qui est à l'origine du 7 octobre et des actes terroristes du 7 octobre, revendique cette notion-là, le Soumoud ? Est-ce que c'est une notion qui revient régulièrement dans leur discours également ?
Bien sûr,
comment est-ce qu'il la mobilise alors ?
Alors, bien sûr, il la mobilise, le discours du Hamas. En fait, dans l'imaginaire occidental, le Hamas est représenté comme étant le diable incarné. Et les Gazaouis sont souvent...
C'est le diable qui a causé le 7 octobre,
oui,
en l'occurrence, on peut le comprendre.
Oui, bien sûr, je suis absolument d'accord avec vous. Mais les Gazaouis sont souvent aussi identifiés au Hamas. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, ces Gazaouis, il faut qu'ils partent, c'est fini. Et le Hamas, il a pris naissance en 1987, lorsqu'il y a eu la première intifada. Il a pris naissance parce que Yasser Arafat avait commencé à négocier pour pouvoir obtenir une paix et reconnaissait Israël. Et donc la résistance armée, elle est passée des mains de Fatah, si vous voulez, à une résistance armée islamique, donc à référent religieux. Le Soumoud, il est bien sûr dans les discours du Hamas. Et aujourd'hui, quand vous avez une population qui est complètement désespérée et qui vit dans cet univers apocalyptique, le seul acteur qui vient en aide, c'est ces gens-là. Donc moi, je me dis, les meilleurs ennemis aujourd'hui, c'est Netanyahou et le Hamas. Ils s'entretiennent mutuellement.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Ilan Pappé. Il était invité des matins de France Culture le 24 juin dernier. Ilan Pappé est professeur d'histoire à l'université d'Exeter au Royaume-Uni.
The term Nakba,
le terme which is Nakba, qui signifie catastrophe en arabe,
est
un terme qui parle de victimes d'une catastrophe.
But they don't tell you who's responsible.
Mais ça ne vous dit pas qui est responsable de la catastrophe.
And looking at the evidence,
et en regardant
I wanted
les
to
preuves,
know who inflicted
Je voulais savoir qui était responsable de cette catastrophe.
And through my research
et à travers
in
ma
archives,
recherche dans les archives,
I could reconstruct
j'ai pu reconstituer l'image
point the finger
grâce à laquelle je pouvais pointer du doigt un groupe politicians and generals de politiques israéliens et de généraux qui ont décidé d'une expulsion massive des Palestiniens en 1948
as a precondition
comme précondition pour la création de l'État d'Israël. Et en regardant dans ce que sont les définitions dans la littérature juridique, dans la littérature universitaire, j'ai trouvé ce terme particulier qui collait véritablement à ce qui s'était passé en 1948 en Palestine.
Quel regard vous portez, Gian Sfer, sur ce travail méticuleux mené par Ilan Pappé pour remonter le cours de la Nakba avant même qu'elle se produise, avant même 1948?
Alors, le travail d'Ilan Pappé est un travail Ilan Pappé fait partie de ce courant des nouveaux historiens israéliens et c'est lui qui est le premier, en Occident en tout cas, de parler de nettoyage ethnique. Et ce nettoyage ethnique de la Palestine en 1948, il cherche les causes dès 1920 et même avant. Et il parle également de l'échec des Palestiniens à pouvoir obtenir un État, mais aussi de la faiblesse militaire de l'armée des Arabes, qui, parce qu'on a toujours représenté aussi ici dans l'imaginaire occidental qu'il y a un David et un Goliath. Et le David a toujours été Israël. Et que le Goliath, c'était le géant arabe qui l'entourait. Or, en 1948, les armées, et ça c'est Ilan Pappé qui le dit, les armées arabes n'était pas du tout entraîné. On avait le Liban qui venait de prendre son indépendance en 1943, la Syrie c'est pareil. Et il y avait et ça c'est Avi Shlaim, un autre historien israélien qui le dit, une collusion avec le roi jordanien pour que le roi jordanien puisse prendre la Transjordanie. Donc il y avait une sorte de trahison aussi de la part des Jordaniens. Donc il y avait une. Et alors que la future armée israélienne, elle était très entraînés. Il y avait l'Irgun, la Haganah, le Lehi, et ils avaient un projet national qui était extrêmement fort, extrêmement fort. Et donc Ilan Pappé, il revient sur ces circonstances.
Le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson.
Oui, comment s'est transmise justement cette histoire de la Nakba auprès des Palestiniens en exil?
Alors, l'oralité ou l'histoire orale est très importante, très 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 importante dans la transmission de l'histoire de la Nakba. Quand vous avez une société qui a éclaté, quand vous avez un État qui n'existe pas, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documents. Toutes les archives sont les archives britanniques, hein, ou les archives françaises. Et les archives arabes sont un peu éparpillées. Et au Liban, par exemple, moi j'ai essayé, quand je faisais ma thèse, de travailler sur les archives libanaises. Et il n'y avait rien. Je suis tombée par hasard sur des archives qui étaient stockées dans une baignoire, une salle de bain, du bureau de la direction des affaires palestiniennes. Mais sinon, les principales archives que j'ai utilisées pour raconter cette histoire du déplacement, de l'exil, c'était des entretiens, des témoignages que j'ai enregistrés. Et il y a maintenant une banque de données de ces entretiens, notamment à l'Université américaine de Beyrouth, dans un projet qui s'appelle The Palestinian Archives History Oral Project, où pour les chercheurs, pour écrire cette Nakba, on revient, on écoute les histoires de déracinement, d'exil et de reconstruction dans les camps ou dans les villes des pays d'accueil.
Pour creuser ce que vous dites, quel rôle particulier alors ont joué les historiens et notamment les historiens arabes pour continuer de transmettre ce souvenir, ce mémoire aussi, cette mémoire vivante de la Nakba?
Alors, au départ, les premiers historiens qui partent, donc on a aussi l'intelligentsia palestinienne qui va se retrouver dans l'exil, et notamment à Beyrouth, parce que Beyrouth était une capitale culturelle reconnue. Ils vont faire une sorte d'encyclopédie. Ils vont rédiger des centaines de pages pour ne pas oublier sur le folklore, sur l'histoire, sur la géographie. Il y a d'ailleurs, Donc, c'est des chroniqueurs plutôt qui racontent la ville et qui racontent l'histoire d'avant la Nakba. Et puis, dans les années 80, on va avoir, et notamment dans le centre des études palestiniennes, l'Institute for Palestine Studies, qui est à Beyrouth et qui a une antenne à Washington, une autre classe d'historiens qui vont, eux, collecter des archives et commencer à enregistrer des témoignages. Mais entre les deux, il y a aussi cette histoire très engagée, très militante, des centres de recherche, comme le centre de recherche du Front Populaire de la Palestine ou de l'OLP, qui avait mis des sous dans le centre de recherche palestinien pour produire également une histoire, mais une histoire qui est marxisante, avec une histoire qui est militante, une histoire un peu réinventée, où le paysan devient réfugié, mais est également combattant.
Je voudrais vous faire entendre la voix du maire adjoint de Jérusalem. On revient un instant à l'actualité. Il parle de la fermeture de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Il s'appelle Ari Eking.
L'UNRWA est une mauvaise organisation. Aucun pays n'a besoin de la parrainer et de lui faire des dons. Tout ce qu'elle fait, c'est laver le cerveau des jeunes Arabes contre les Juifs et Israël. Il est temps que les Arabes qui étaient pris en charge par l'UNRWA s'intègrent à la population ici, à Jérusalem.
Julien Bisson.
Oui, Julien Sfer, comment est-ce qu'on peut imaginer le destin de la société civile palestinienne alors que l'UNRWA, qui est en charge des réfugiés palestiniens, est attaquée par Israël et les États-Unis pour la complicité supposée de quelques-uns de ses membres dans les attaques du Hamas?
Moi, je pense que les attaques du Hamas et par des membres de l'UNRWA ont été contestées après, je pense. Enfin, il y a eu aujourd'hui l'UNRWA est, comme je le disais, le premier employeur des Palestiniens dans les camps et hors les camps. Si on arrête et si on ferme l'UNRWA, les Palestiniens n'auront plus de travail. Beaucoup de Palestiniens n'iront plus à l'école. Il y a les dispensaires, les hôpitaux. Qui va les remplacer? Est-ce que l'État d'Israël est prêt à ouvrir ses hôpitaux? Si c'est le cas, alors ça serait génial pour les Palestiniens, parce qu'on sait très bien que la médecine israélienne est à la pointe et que les Palestiniens ont besoin aussi d'être soignés. Et je pense que ça serait un premier pas aussi peut-être pour un État binational et pour une entente. Mais je ne pense pas qu'on est dans cette configuration. On est très loin de ça. L'UNRWA est encore très appuyé par la communauté internationale, à part les États-Unis. L'Allemagne s'était retirée, quelques pays s'étaient retirés, mais ils sont revenus. Et ils continuent, il y en a qui ont redonné de l'argent. Alors je ne sais pas, peut-être que les pays arabes, les Émirats, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe vont refinancer cette agence qui est vitale pour l'avenir des civils palestiniens.
Je reviens, et je m'en excuse presque, aux propositions de Donald Trump, hein, celle en particulier de déplacer les Gazaouis. Donald Trump qui disait le 27 janvier dernier, je le cite, « J'aimerais qu'ils vivent, en parlant des Palestiniens, dans une région où ils peuvent vivre sans perturbation, sans révolution et sans violence. La bande de Gaza, c'est l'enfer depuis tant d'années. Il y a eu plusieurs civilisations sur cette bande depuis des milliers d'années et la violence y a toujours été associée. » Fin de citation. Ces déplacements dans l'imaginaire des républicains, dans l'imaginaire de Donald Trump et de son entourage, où est-ce qu'il les imagine? Où est-ce qu'on peut encore déplacer les Palestiniens aujourd'hui?
Alors, je sais pas, il y a une artiste palestinienne, Sansour, qui avait fait une exposition à l'Institut du Monde Arabe il y a quelques... où on voyait un astronaute sur la Lune poser le drapeau, planter le drapeau palestinien. Je sais pas s'il a l'intention de les envoyer sur Mars avec son copain Elon Musk, mais en tout cas, une région qui soit paisible, il est prêt à les accueillir aux États-Unis, au Texas, il est prêt à les accueillir, c'est leur terre, ils y ont droit.
Et on sait que les déplacements en Égypte, même au Liban, sont absolument impossibles, évidemment. Julien Bisson.
Oui, une dernière question peut-être sur le rôle de l'armée israélienne aujourd'hui dans cette bande de Gaza et notamment dans le nord. Est-ce que c'est une concession majeure pour Israël d'avoir permis le retour de ces réfugiés palestiniens? Et quel va être le rôle de l'armée israélienne après le cessez-le-feu?
Moi, je pense que, en fait, le cessez-le-feu est un leurre. Et je pense que l'armée israélienne s'est retirée aussi pour souffler. Et que Donald Trump l'a dit, il y a deux jours, je pense, que Israël peut reprendre la guerre quand elle veut. Pour le moment, il n'y a pas uniquement Gaza, il y a la Cisjordanie aussi. Et donc, on a des troupes qui sont en train de mener des opérations en Cisjordanie pour intimider les Palestiniens, les pousser à partir. Donc, on a une intimidation sur les deux territoires. Et il y a une véritable volonté. Derrière tout ça, il y a un véritable projet. Et il l'a dit, un des ministres israéliens l'avait dit, de recouvrer 100% de la Palestine mandataire et de refaire un État d'Israël tel que imaginé par l'extrême droite.
Merci beaucoup, Jeanne Sfer. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Je rappelle l'un des ouvrages auxquels vous avez participé, écrit Politiques arabes, une anthropologie du Mashrek au Maghreb au XXe siècle. C'était coordonné avec Leïla Sera et c'était au CNRS édition en 2022. Julien Bisson, qu'est-ce que l'on trouve dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine? Vous voyez loin, non?
Oui, on se demande qui contrôle l'IA. Essayer de tout comprendre de la géopolitique de l'IA à quelques jours de l'ouverture du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris.
Excellente lecture à toutes et à tous.